Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelle journée, mes frères, quelle journée unique dans l'histoire du monde, que ce dimanche de printemps, dans Jérusalem, les amis et les ennemis de Jésus découvrent progressivement la victoire qu'il a remportée dans la nuit précédente, sans tambour ni trompette, sans tumulte ni vacarme, sans un coup d'épée, sans même un éclat de voix, mais de façon définitive et glorieuse contre la plus vieille et la plus terrible des ennemis physiques de l'homme, contre la mort. Parmi les humains, cet événement pourtant capital n'a eu aucun témoin. On ne sait pas exactement à quelle heure il a eu lieu. Aucun œil n'a vu Jésus sortir du tombeau. Mais au ciel et dans les enfers, on a tout suivi à peu près en temps réel. Au ciel, ce sont les anges bien sûr, que Dieu a déjà voulu faire participer à tous les grands événements de la vie du Christ, depuis l'Annonciation jusqu'à l'agonie au Jardin des Oliviers. Les anges ont aussi reçu la mission de manifester la résurrection. Et dès que le soleil paraît, l'un d'entre eux descend visiblement du ciel et roule la pierre du tombeau avec un grand fracas avant de s'asseoir dessus, tout resplendissant de lumière, brillant comme l'éclair, dans un vêtement blanc. Ceux qui ont assisté à la messe cette nuit ont entendu cet évangile. Frappés de frayeur, les gardes du temple, qui ont été postés à cet endroit par les grands prêtres, car le temple avait droit à une garde spéciale, les gardes s'évanouissent. Et quand ils reviendront à eux, ils devront bien constater que le tombeau est vide et devront aller rendre compte à leurs supérieurs, les autorités du temple. Les anges, donc, ont agi. Mais dans les enfers aussi, on a tout suivi de très près. Vous savez, mes frères, qu'il ne faut pas confondre ce qu'on appelle les enfers au pluriel avec l'enfer au singulier. Les enfers, dans l'Ancien Testament, sont tout simplement le séjour des morts. Et évidemment, ils sont particulièrement intéressés par cette victoire sur la mort. Car depuis le péché de notre premier père, non seulement tous les hommes doivent passer par la mort, mais tous les hommes restaient prisonniers de la mort. Comment auraient-ils pu en sortir? Au bout d'un certain nombre d'années, le corps devient incapable de conserver la vie. L'âme en est alors expulsée, plus ou moins brutalement, et on assiste des deux côtés à un triste spectacle. Le corps, privé de son principe d'unité, devient un cadavre, c'est-à-dire une masse de matière prête à se décomposer. L'âme, elle, ne disparaît pas, car elle garde ses capacités spirituelles, mais elle est subitement devenue sourde, aveugle, insensible, privée non seulement de ses sens, mais de son imagination et de toutes les données que lui fournissait le cerveau. Elle est définitivement fixée dans l'état où elle se trouvait au moment de la mort. Elle est comme prisonnière de ses choix antérieurs. Si elle est orientée contre Dieu, c'est l'enfer au sens strict, avec la peine des damnés. Si elle est juste, elle jouit d'un certain bonheur. Mais dans l'Ancien Testament, c'était un bonheur imparfait et languissant, puisque ces âmes justes n'ont ni la vision de Dieu, ni même la satisfaction de mener une vie humaine normale, ou tout simplement de savoir ce qui se passe sur notre terre. Telle était donc, dans les enfers, la condition des justes avant la venue du Sauveur. Et c'est dire, mes frères, le retentissement qu'y eut la visite de l'âme du Sauveur. Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire son âme humaine, son corps est resté au tombeau, mais son âme est allée visiter les justes encore captifs aux enfers. Imaginez qu'au terme d'une longue guerre, un camp de prisonniers apprenne tout à la fois la victoire de leur pays et l'arrivée du général vainqueur qui va leur permettre de rentrer chez eux. Telle fut la descente de notre Seigneur Jésus-Christ aux enfers. D'une façon mystérieuse, il alla proclamer sa victoire à ses esprits qui étaient comme détenus en prison, en leur annonçant leur délivrance plus proche. Et même, il permit à certains d'entre eux de reprendre leur corps en même temps que lui pour aller eux aussi témoigner de sa victoire. Vous l'avez entendu dimanche dernier dans le récit de la Passion de saint Matthieu. Beaucoup de saints défunts ressuscitèrent et, sortis des sépulcres après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Ainsi, sur cette terre, les enfers s'unissent aux cieux pour proclamer la résurrection du Sauveur. Le plus discret est presque le vainqueur lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, après être sorti sans bruit et sans éclat de son tombeau, semble retarder le plus possible ses manifestations visibles. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'apparaît pas dans l'évangile que nous venons d'entendre. Les saintes femmes voient la pierre roulée sur le côté, elles voient l'endroit où Jésus avait été déposé, elles voient l'ange qui leur annonce la résurrection, mais elles ne voient pas le ressuscité lui-même. Elles restent dans la frayeur et l'inquiétude et réagissent de façon diverse. On s'en aperçoit en comparant les récits des différents évangélistes, car chacun d'entre eux simplifie à sa façon cet épisode d'après la source dont il dépend. On constate ainsi que Marie-Madeleine était partie plus tôt que les autres avant le lever du jour, ce qui est normal car elle venait de plus loin, du petit village de Béthanie qui est en dehors de Jérusalem. Elle a sans doute rejoint d'autres femmes dans la ville sainte, mais elle les a quittées dès qu'elle a aperçu de loin que la pierre du tombeau avait été roulée. Alors, sans même aller voir sur place, elle s'est précipitée pour prévenir les apôtres Pierre et Jean, qui sont venus à leur tour au tombeau, et qui n'y ont vu ni le Sauveur, ni même un ange, mais qui ont pu constater l'étrange disposition des linges qui entouraient le corps de Jésus. Car si le corps a disparu, le linceul et les différents linges sont toujours là, vides et aplatis, sans même avoir été déroulés. C'est cette constatation qui frappe immédiatement saint Jean. Il constate que le corps n'a pas pu être pris par une main humaine, car soit il aurait été emporté avec les linges, soit il aurait fallu le désenvelopper. Or, il semble être sorti en traversant les linges qui se sont ainsi aplatis une fois qu'ils étaient vides. Il vit et il crut, dit l'Évangile. Mais notez bien que Jésus lui-même ne s'est pas encore manifesté. Il laisse encore Marie-Madeleine revenir une deuxième fois au tombeau et s'entretenir avec un ange avant de se montrer à elle, mais sans aucun éclat, de façon toute simple et familière. Pendant ce temps, à Jérusalem, c'est le branle-bas de combat, car les gardes ont fait leur rapport aux autorités juives. Très certainement, certains prêtres, certains pharisiens sont venus sur place, au tombeau, se rendre compte des choses. Autour du tombeau vide, tout commence à s'agiter comme une fourmilière. Mais Jésus n'est pas pressé de se montrer. Le gros des apôtres devra attendre le soir. Et là encore, comme dans l'apparition aux disciples d'Emmaüs, qui a lieu en fin d'après-midi, juste avant, on est frappé non seulement par la simplicité de ces apparitions, mais par la réserve du Sauveur. Il ne veut ni éblouir les yeux, ni frapper les imaginations, mais agir au fond des cœurs. Pourquoi ? Pourquoi cette réserve ? Parce qu'il n'est pas ressuscité pour cette vie temporelle. Il n'est pas ressuscité pour ce monde. Il est ressuscité pour la vie glorieuse, la vie éternelle. Et d'une certaine manière, il doit faire opérer encore une conversion aux apôtres. Il y a déjà eu le choc de la passion qui a certainement modifié en profondeur les apôtres. Mais il faut encore qu'ils attendent, qu'ils se préparent, que leur âme s'élève progressivement aux dispositions surnaturelles de foi, d'espérance, de charité, car c'est cette vie théologale que notre Seigneur veut développer. Il est ressuscité, certes, il a redonné la vie au corps, mais le plus important, c'est la vie de l'âme, la vie avec Dieu. Et même pour lui, la période de 40 jours qu'il entame n'est qu'une transition avant son retour définitif au Père. On remarque d'ailleurs que ces apparitions sont comme en pointillé ou en clignotant. Notre Seigneur est, pour ainsi dire, entre la terre et le ciel. Il n'a plus un corps corruptible, un corps semblable au nôtre, comme il l'avait auparavant. Déjà auparavant, durant sa vie terrestre, par son âme, notre Seigneur tendait toujours au ciel, parce qu'il jouissait de la vision béatifique, et on peut dire que seul le poids de son corps terrestre le retenait ici-bas. Mais maintenant qu'il a un corps glorieux, un corps céleste, comment pourrait-il rester en bas ? Son corps n'est pas ici, dans le lieu qui lui convient. C'est ce qu'il dit d'ailleurs à Marie-Madeleine, qui veut sans doute venir lui baiser les pieds, comme elle l'avait déjà fait. Il lui dit « Non, ne me touche pas, car je ne suis pas encore remonté à mon Père », ce qui veut dire « Je suis dans un état qui n'est plus l'état normal des corps ici-bas. Normalement, je devrais déjà être en haut, dans un lieu plus adapté à moi. » Et c'est dans ces dispositions, mes frères, que nous devons célébrer cette victoire de notre Seigneur. Bien sûr, nous devons nous réjouir avec lui, nous devons le louer, nous devons nous réjouir et pour lui et pour nous, puisque nous aussi, nous allons bénéficier de cette victoire sur la mort, mais nous devons bien nous rappeler que cette vie nouvelle à laquelle il nous appelle n'est pas la vie sensible d'ici-bas. La résurrection qu'il veut nous donner n'est pas cette sorte d'immortalité terrestre auquel rêvent encore aujourd'hui certains illuminés qui s'imaginent qu'on pourra prolonger indéfiniment la vie ici-bas. Non, ça n'est pas ça du tout. Il s'agit de rejoindre la vie de Dieu lui-même. Et pour cela, il faut développer la foi dans les réalités que nous ne voyons pas, les réalités divines. Il faut développer l'espérance, l'attente de cette réalité surnaturelle, de cette gloire que nous n'avons pas encore. Et bien sûr, il faut développer la charité qui, elle, touche, atteint déjà son objet, puisque nous sommes déjà en contact avec Dieu. Donc, mettons-nous dans ces dispositions de foi, ces dispositions d'espérance, élevons nos regards vers le ciel. Et nous pouvons pour cela prier notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, bien sûr, lors de la Sainte Communion. Nous pouvons prier tous les personnages qui se sont manifestés dans ces scènes. On n'y pense pas forcément, mais il y en a un certain nombre. C'est aussi bien les anges de la résurrection que Sainte Marie-Madeleine, les apôtres, ou bien ces saints anonymes qui sont ressuscités à ce moment-là et qui sont manifestés. Et dans la mesure où ils ont joué un rôle dans la résurrection, peuvent, si nous les en prions, nous aider aujourd'hui à rentrer dans l'esprit de foi de Pâques. Et puis bien sûr, prions la Sainte Vierge Marie. L'Évangile ne nous dit rien de la façon dont notre Seigneur s'est manifesté à elle. Cela reste un mystère. Il convenait que cela reste un secret entre Jésus et sa mère, mais il est certain que de toutes les personnes d'ici-bas, c'est elle qui s'est le mieux unie à la joie de la résurrection. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.